si vous aviez la foi, même minuscule, comme une petite pointe d'épingle, vous diriez à cet arbre qui est là, déracine-toi, va te planter dans la mer. Il le ferait dans l'instant. À chaque fois que Jésus fait, à chaque fois que vous lisez un évangile, il faut tout de suite reprendre l'Immaculée Conception. Jésus, à chaque fois qu'il parle, il parle de Marie. Pas un seul miracle, pas un seul signe, pas une seule révélation sur la vérité tout entière, sans qu'il voit d'abord, en tant que Verbe de Dieu, dans sa vision de lumière, la foi immaculée de Marie dans laquelle il pénètre et qui vient révéler, dans lequel il vient se révéler et dans lequel il dévoile les secrets du Père et du Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre interprétation littérale première que celle-là. Donc à chaque fois qu'on a un évangile, c'est l'effort qu'il faut faire, l'effort de la foi. Marie a eu cette acte de foi. Elle était la plus petite de toutes les plantes potagères, la petite pointe d'épingle, le plus petit d'humilité substantielle parfaite en elle. Elle s'est jamais regardée elle-même. Jamais. L'homme qui se regarde dans un miroir, il s'en va. Il oublie même le visage qu'il avait. Marie, c'est pas ton cas. Elle s'est jamais regardée dans un miroir. Il n'y a aucune vanité en Marie. Aucune chose vaine, aucune chose secondaire. C'est à la fois l'état pur, c'est la plénitude de la grâce. Ton amour était toujours dans l'amour brûlant de celui qui l'a dépassé en amour, elle était toujours beaucoup plus, infiniment plus petite que tout autre. Et en même temps, l'autre avait une importance très 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 grande, immense, substantielle en elle. Quand l'ange Gabriel s'est manifesté à elle, c'est ce qu'il dit qui avait la plus grande importance. Et non pas l'évidence de sa minusculité. Si vous aviez la foi toute petite, donc vous diriez à cet arbre, va te planter dans la mer, l'arbre de vie. L'arbre de vie qui est dans le sol solide de l'éternité. La sagesse créatrice du Verbe de Dieu, son union hypostatique primordiale, Marie dit, va te planter dans la mer, c'est-à-dire pénètre dans le mystère du temps. Et l'arbre s'est planté dans l'instant même. Le Verbe est devenu chair. Remarquez, pourquoi je dis ça? Parce qu'on n'a pas de Dieu, c'était pas ça. Oui, parce que quand l'aveugle dit « je vois des arbres », ah, pour ça je dis ça. Quand le Christ nous donne de quoi voir dans la lumière surnaturelle le monde intérieur de Dieu, ça y est, on peut justement voir qu'à la suite de cet acte de lumière et de foi en nous, l'arbre, tous les mystères du Christ se déplacent, courent, se transplantent dans le temps. Du ciel intérieur, de la solide de l'éternité, le Verbe de Dieu fait, opère le mystère à travers nous d'une manière nouvelle, de l'incarnation d'une manière nouvelle, de la visitation d'une manière nouvelle, de la nativité d'une manière nouvelle. Les arbres courent comme ça. On ne les voit pas nettement, mais on les voit quand même qui courent. Et quand Jésus impose les mains une seconde fois sur Marie, c'est-à-dire dans son union hypostatique déchirée, avec les mains précisément de son sacerdoce éternel vivant dans le sacrement de l'Église, la joannique où il se rend substantiellement, universellement, éternellement présent à elle, alors à ce moment-là, elle voit tout dans la clarté. Elle voit tout dans la clarté accomplie de l'Église. Et vous allez là ici, le passage de Marie avant l'Eucharistie et après l'Eucharistie. On ne voit pas Dieu comme un arbre de vie à ce moment-là, on voit le Dieu tel qu'il est, n'est-ce pas? C'est lui. Et c'est sûr qu'il y a une croissance dans la manière dont l'Esprit Saint a saisi la foi de Marie. Mystère de la messe, C'est la mission invisible du Saint-Esprit qui s'opère sous le mode de la plénitude de l'esprit d'intelligence, c'est-à-dire la pureté de la lumière du Saint-Esprit, autant que ça peut être dans la plénitude de grâce, de la foi de Marie, la plénitude de la sagesse, de la saveur, reste une foi qui n'est pas encore dans la clarté de la plénitude de la forme même de Dieu. Après l'Eucharistie, pour Marie, c'est facile. Pourquoi ? Parce que c'est sûr qu'elle a eu une Pentecôte. Rappelez de la croix, dans le mystère eucharistique, ce n'est plus le don du Saint-Esprit qui lui a été donné. C'est Saint Jean qui dit, c'est lourd. Le sang. Et la personne même du Saint-Esprit. En fait, la fête de la Pentecôte, hein, j'avais oublié que la Pentecôte, la première Pentecôte, c'est au pied de la croix, et c'est Marie qui reçoit dans l'eau et le sang l'hypostase du Paraclet, du Saint-Esprit. Elle prie, et c'est pour ça que Jésus, elle a fait l'acte de foi, parce que elle n'a jamais rien gardé pour elle. Elle sait très bien que tout ce que Dieu fait, son Père et l'Esprit Saint font en elle, c'est pour Jésus. C'est pour Jésus vivant et entier. Donc elle prie et fait l'acte de foi. Et quand Jésus donc ressuscité, appareil souffle sur les apôtres et dit « Recevez l'Esprit Saint à la prière de Marie. » À l'acte de foi de Marie. En raison d'un acte surnaturel, quasi incréé, parce que quand même. Et ensuite il y aura la Pentecôte. De manière admirable. Le Saint-Esprit sera envoyé de manière beaucoup plus claire dans la Pentecôte des langues, de feu, aux 12 apôtres, parce que ce sera après l'Eucharistie de l'Ascension. On voit bien que même dans le mystère de la foi de Marie, les choses ont été de lumière, d'amour en amour, de gloire en gloire, d'abîme en abîme. L'abîme appelant un autre abîme, des myriades de fois plus grand, à la voix de ses cataractes. Il n'y a pas une oraison qui ressemble à une autre, parce qu'elle l'a précédée. Il n'y a pas de cause diminuante dans la grâce. La mission invisible du Saint-Esprit augmente de manière spectaculaire la sainteté dans l'âme du monde et dans la nôtre. On ne se lasse jamais de la soif de Dieu. Vous pouvez prendre n'importe quel passage de l'Évangile. Toujours. Le Verbe de Dieu voit la foi de Marie, il s'y engloutit et il donne la révélation de Dieu à travers elle. Et donc l'Évangile, la Haggadah, c'est son inspiration concrète. C'est forcément la première interprétation littérale de l'Évangile. C'est à nous, sous le souffle du Saint-Esprit, de la retrouver. Le soir, on s'endort. Dis, mon Dieu Seigneur, si je pouvais voir en quoi Marie a quelque chose à voir avec ce texte. Ça alors, c'est sûrement vrai, puisque j'ai entendu dire cela. J'ai entendu dire que Marie était mère de Dieu. Donc c'est forcément vrai. J'assiste à la Sainte Eucharistie, au sacrifice de la messe. Ah mais ouais, Marie, là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, à l'instant eucharistique, du sacrifice parfait, accompli, substantiel, transglorifiant, de l'amour victime à l'éternel, de celui qui t'assied à la droite du Père, pour réactuer de manière substantielle, réelle, absolue, la séparation de son âme, de son sang et de son corps, sous nos yeux, pour que nous nous en nourrissions à la manière dont Marie s'en est nourrie, et avec elle, en présence réelle, dans l'attraction véhémente du Père. souffle. De la l'aspiration absolue, éternelle, inévable, inconditionnelle d'amour du Saint-Esprit en nous. Oui, on dit, Père éternel, nous vous offrons le corps. Jésus. Nous vous offrons le corps. Le corps. Le sang. Le sang d'à côté, le corps de notre l'âme de Jésus. Où est-elle? Et la divinité. Et l'union hypostatique désirée. Vous savez, au moment où Jésus. Toute la toute puissance de son amour incréé, la toute puissance du Père, la toute puissance d'amour du Saint-Esprit, la toute puissance éternelle d'amour. Il a opéré cette séparation, cet arrachement, une cruauté invraisemblable d'amour de son corps, de son âme. Et qu'il n'y a plus une seule goutte de sang dans son corps. Puisque c'est bien dit que la dernière goutte de sang est sorti de lui. L'eau, le sang, l'Esprit Saint. Alors, son âme, à quoi ça ressemble une âme à votre avis? L'âme messianique du Christ, l'âme source de toutes les participations à la vie divine de Dieu dans le monde du temps et de l'éternité. L'âme, la source de la grâce, de la sainteté. L'âme du Saint des Saints. L'âme de la sainteté. Le Saint des Saints, des sources de toute sainteté. L'âme. Cette âme qui a été le lieu de la ténèbre jusqu'au sommet de l'âme, continuellement dans une agonie invincible. Inconditionnellement donnée à la mort. Pendant 36 ans de sa vie. Cette âme-là se trouve arrachée au corps et ça s'est réalisé par amour pour le Père, par amour pour Marie, par amour pour l'unité du Père et de Marie, par amour, c'était l'amour substantiel et agréé éternel qui a opéré cet arrachement. Personne ne prend. Me prend la vie, c'est moi qui la donne. Et son âme, comme c'est l'amour pour le Père, et que dans son humanité, que ce soit dans son corps, dans son cœur, dans son esprit vivant, sauf peut-être dans la lumière de gloire de la vision béatifique, qui est au sommet de son intellect à genre, c'est sûr. Mais sinon, Jésus ne regarde la première personne de la Trinité, son Père, qu'à travers son Père, parfaitement, substantiellement ajusté dans la lumière au Père, dans la responsabilité qu'il a avec la Mère, pour faire une seule paternité, une seule enchantrement du corps mystique tout entier, de celui qui doit être donné en nourriture en entier au Père, avec tous ses membres et avec toute gloire. Et donc l'âme de Jésus dans l'amour pour le Père ne peut que être attirée dans une attraction irrésistible d'amour produite par cette toute-puissance victimale dans l'âme de son Père. L'âme le Père éternel n'a pas d'âme, mais l'âme de son Père, qui est le sacrement de la paternité incréée de Dieu, de l'époux de l'Immaculée Conception de Joseph. Bon, c'est sûr que l'âme séparée de Jésus, dans l'instant même, s'est transplantée dans l'océan victimal, ta mort du Christ dans son Père. Parce que n'oublions pas que si Joseph a pénétré dans le lieu des ténèbres et dans le temps de la mort, dans la profondeur des océans, il n'est pas mort d'une mort naturelle, hein, Saint Joseph, je crois pas. Hein. Il était juste, todikaios on. Il était juste, ajusté substantiellement à celui qui était proche. Depuis la nativité, vous ne pouviez pas faire de proximité dans l'histoire du monde et de la terre plus substantielle, plus réelle, plus physique, plus intérieure, plus incarnée et plus mystique qu'entre Joseph et son fils. Or, son fils vit déjà. Il est déjà dans une union hypostatique, déjà déchiré, pas totalement. Mais la mort a commencé substantiellement, personnellement, dans Jésus, dès la nativité. Et Saint Joseph a été dans cette... Il était substantiellement ajusté. Et donc, cet ajustement... dans l'au-delà de l'unité des deux et même des trois, a réalisé en Saint Joseph que la mort du Christ, de Jésus, du Fils unique de Dieu, s'est réalisée dans sa chair, dans sa personne, dans sa vie, de manière telle, comme lui n'était pas l'Immaculée Conception, il est mort de la mort du Christ, une mort d'amour, c'est le premier grand stigmatisé, la déchirure du cœur. Du Verbe de Dieu. Il a été le tabernacle paternel, et le. Parce que Jésus l'a dit, tout ce que fait mon Père, je le fais pareillement. Et il l'a précédé 3 ans et demi. La mort de Jésus a pénétré la durée et la profondeur des océans, de la durée de la mort, avec Saint Joseph. Mais c'est la mort du Christ qui était dans son âme, qui a opéré. Et donc, il a été le juste par excellence, ajusté à tous les hommes de tous les temps. Et pendant 3 ans et demi, 1290 jours, il a opéré le temps de l'apocalypse du monde de la mort. Il savait très bien que Jésus ne regardait son Père qu'à travers lui. Comme l'explique Saint Vincent de Paul. C'est bien que quand Jésus meurt dans l'Eucharistie, quand Jésus est victime dans l'Eucharistie, son âme, nous assistons sous nos yeux à cette précipitation d'amour de l'âme de Jésus dans l'âme de son Père et l'âme humaine de Jésus et l'âme humaine de Joseph réalise une seule brûlure déchirée d'amour pour la rédemption du monde entier. Et dans cette unique brûlure, en deux âmes séparées, Dieu le Père à travers l'âme de Joseph, Dieu le Fils à travers l'âme de Jésus, réalise une unité substantielle dans le sang. Ce qui permet à la dernière goutte de sang d'être reçue. Ouais. Clos de l'Immaculée Conception en Marie. Quand le Père et le Fils sont dans le sang, c'est-à-dire dans le sang incréé, si je peux dire, alors, vous comprenez bien que la procession du Saint-Esprit émane d'elle. De cette unité. La différence entre l'extraordinaire et l'ordinaire, c'est que désormais Saint Joseph doit être explicitement présent à la foi eucharistique de l'Église du cinquième sceau de l'Apocalypse. Voilà le message du Vatican II. Et que l'Esprit Saint, qui émane de l'unité du Père, a créé du Fils sacré, à travers l'âme créée du Père et de son Fils, dans une sponsalité, parce que l'âme de Joseph appartient ainsi que sa chair, et pendant 30 ans, vous vous rendez compte, pendant 36 ans, ce mariage, cette sponsalité entre l'âme de Joseph et l'âme de Marie, la chair, c'est-à-dire le corps spirituel ajusté de Joseph, à l'au-delà de son unité sponsale avec Marie, dans le souffle de l'Esprit Saint, dans la transactuation transfigurée messianique. Son âme, Joseph, ici appartient de droit et de fait à l'Immaculée Conception qui, elle, est avec sa chair, son sang, son corps et sa plénitude de foi au pied de la croix. Voilà pourquoi il y a eu transverbération dans l'âme, le corps, la chair, le sang, l'esprit et toute la personne de Marie, et ceci par la médiation de la sainte dispensale avec Joseph, parce que Marie ne s'est jamais regardée elle-même. Elle ne voit que le Père dans son Fils, le Fils dans son Père. Et voilà pourquoi elle offre le corps. Mais elle offre aussi là. Elle est unie. Et aussitôt que l'Esprit Saint émane de cette unité des deux dans les enfers, aussitôt, la déflagration du Saint-Esprit envahit totalement, substantiellement, jusqu'à la racine de sa substance, l'âme de Jésus, et du coup l'âme de Joseph aussi, évidemment. Jésus l'avait dit sur la croix, aujourd'hui même. Tu es dans la vision béatifique avec moi. Alors pour le brigand, c'est valable. Et pour Joseph, il doit attendre combien? 3000 ans. Vous voulez rire ou quoi? Vous vraiment avoir aucun sens? Dans l'instant. Si dans la foi tu dis dans l'instant même, l'arbre va s'enraciner dans la profondeur des océans. Marie qui est derrière. Si tu ne vois pas Marie qui est derrière, c'est que vraiment, vraiment, c'est pas que tu sois aveugle, c'est que tu es sourd. Hein. Et donc quand vous avez l'Eucharistie, il faut vivre ce que Marie a vécu, de la croix. Elle a reçu, elle a offert le corps, le sang, l'âme. L'âme, ici je prends l'âme parce que l'âme, aussitôt, est glorifiée. L'âme de Jésus, l'âme de Joseph aussi, est totalement ressuscitée. Le corps, non, le corps il est séparé. Dans l'Eucharistie, c'est ce qui se passe, le corps est séparé. Et l'âme est remplie de la gloire de la vie, remplie de la gloire de la résurrection. Pour la première fois, l'âme de Jésus connaît la plénitude de la gloire de la résurrection. Jésus n'a jamais connu ça dans son âme que dans la seconde qui a suivi sa mort, par son amour pour le Père et pour Marie. Marie, elle sait bien tout ça, elle voit tout ça, dans sa foi toute pure. Le sceau du Saint-Esprit. Elle sait très bien qu'ils sont trois en un en trois. Et c'est même elle qui a acquiescé à cela avant que ça puisse se produire sous le sceau de la puissance du Père, dans l'opération de la puissance toute puissante et éternelle du Saint-Esprit, pour que le Verbe de Dieu puisse accomplir cette réalisation de la rédemption dans son Père, dans le cœur de Marie, dans le cœur de l'humanité tout entière. Mais l'humanité tout entière se trouve présente dans l'humanité intégrale qui elle-même se trouve en germe, et sa présence tout à fait substantielle est présente dans l'au-delà de l'unité sponsale de Marie-Joseph. À ce moment-là, ce n'est plus ni homme ni femme, c'est l'humanité intégrale tout entière, présentée dans toute sa nature entière, en intention, en extension, en compréhension et en substance. Et c'est pour ça que du coup, l'application des trésors de la rédemption sont donnés à la foi de Marie, tandis qu'elle se trouve seule au pied de la croix, avec le corps de Jésus. Le corps de Jésus, elle doit le donner aussi. Parce que si l'âme de Jésus est remplie de la gloire de la résurrection, le corps de Jésus qui est en elle et qui est dans le sein du Père et dans la substance même de l'hypostase du Verbe de Dieu. Comprenez bien, le corps de Jésus appartenait à Marie depuis toujours, bien sûr. Elle s'en dépossédait sans cesse pour tous les hommes et pour le Père. Bien sûr. Mais ce corps était toujours lui donner en même temps la présence, quelque part, de la source de la sainteté, à travers l'âme humaine de Jésus. Parce que d'un seul coup, le corps est là, et il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'âme, il n'y a plus d'humanité, il n'y a plus de source de sainteté, il n'y a plus de vie divine, il n'y a plus de vie. La grâce capitale n'est plus présente dans le corps de Jésus. Les sources d'eau jaillissante de la vie de sainteté ne sont plus présentes dans le corps de Jésus. Dans le corps de Jésus, c'est, pour ainsi dire, enfoncé à l'instant de la mort dans la substance hypostatique du Verbe de Dieu. Et c'est le Verbe de Dieu qui fait vivre ce corps cadavéré. Pourquoi ? Parce que le corps de Jésus est, en raison de cela, d'après l'Épître, incorruptible. Quand notre corps, nous, il meurt, notre âme se sépare et la source de l'unité de ce corps disparaît. Alors notre corps n'a plus sa source d'unité et c'est pourquoi il se décompose. Avec le temps, il s'est multiplié des milliards de fois en poussière. Le corps de Jésus, lui, est substantiellement, hypostatiquement lié à sa source d'unité, de personne. Et la source d'unité qui fait vivre l'unité substantielle du corps de Jésus, c'est dans la mort, après la mort, à l'instant de la mort. C'est le Verbe de Dieu lui-même. C'est Dieu. Et bien, le corps est précieux pour Marie, parce que c'est la personne même du Verbe de Dieu qui va se donner à elle. Et sous le sceau du Saint-Esprit, la transverbération sponsale glorieuse de Jésus, de Joseph, du Père et du Verbe de Dieu dans la procession du Saint-Esprit va se transmettre par la médiation de ce corps dans le Verbe de Dieu et l'ouverture de ce corps par le coup de langue. C'est pourquoi on appellera cet transpercement de Pentecôte du Saint-Esprit transverbération. Et elle offre ce corps là au Père. Elle offre aussi l'âme glorifiée, avec la plénitude de résurrection de toute âme humaine, au Père. Si je dis ça, c'est pas pour faire joli ou faire beau, hein. C'est parce que dans notre foi, à la messe, nous devons croire avec la foi chrétienne à ce qui se passe dans l'instant eucharistique du sacrifice divin qui est sous nos yeux. Et nous devons offrir le corps tel qu'il est, comme Marie l'a offert, et la manière dont Marie l'a offert, et avec la plénitude de lumière dont Marie l'a offert, offrir aussi l'âme avec la plénitude de présence de Joseph, notre Père, avec tous les embrasements de la résurrection qui sont dans l'âme de Jésus-Joseph, qui sont d'ailleurs le même embrasement que celui de tous les saints depuis. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, il y a l'embrasement de la résurrection de toutes les âmes des saints, qui sont présents réellement dans la séparation de l'âme et du corps eucharistique du Seigneur. Voilà ce que Paul VI a précisé dans son encyclique sur l'Eucharistie. Ah oui, mais notre foi dans l'Eucharistie n'est pas à ce niveau-là. Pardon ? Enfin, on n'est pas des limaces, des crapauds, nous sommes les colombes de la foi, de l'Église. Viens, ma colombe, viens dans le creux du rocher, viens dans l'amour. Voilà. la lumière palpitante de mon miel qui s'écoule. Et j'offre le corps, j'offre l'âme, j'offre le sang. Et il faut voir le sang. Demandez à Sainte Catherine de Sienne, il faut voir le sang. Voir, ça veut dire pénétrer, toucher la substance du sang. Le toucher. Écouler paisiblement, tranquillement, en toute simplicité, comme un petit ruisseau tranquille et clair, transparent, limpide. Notre sang dans le sang, et le sang dans notre sang, dans le sang du cœur immaculé de Marie, du cœur de l'Église tout entière accomplie. C'est ce sang-là que nous offrons au Père. Parce que la substance de ce sang, comme je vous l'ai déjà expliqué, il est le sacrement, l'enveloppe et le tabernacle, l'aspiration active du Père et du Fils, d'où émane la procession du Saint-Esprit. Vous voyez, petit à petit, il faut s'habituer au langage de la foi doctrinale de l'Église. On dit, moi, je prends la Bible, puis ça me suffit. Vraiment. J'en connais un moi, qui s'est appuyé sur la foi de la Bible seule, et il a terminé pendu. On ne peut pas le dire, le pauvre. Parce que Marie, elle a vécu de la foi doctrinale, la tradition infaillible venue des nations d'Israël, de Moïse, des prophètes. Parce que la Torah s'est inscrite, brûlante dans son cœur, dans la tradition mystique, transformante. Et l'Église catholique, c'est ça. On ne prend pas assez conscience jusqu'à quel point on a été protestantisé. Peut-être que on s'en rend compte lorsqu'on fait un petit peu connaissance, un petit peu, deux ou trois jours, avec la doctrine catholique. Peut-être on se rend compte qu'on est très 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 loin de la lumière surnaturelle de la foi que Dieu a donnée dans l'Église apostolique. Et que de fait, notre foi n'est pas la foi chrétienne. On espère que c'est pas trop une foi bouddhiste, hein? Un revêtement d'apparence chrétienne, hein, ou hindouiste, hein, ou ésotériste, ou gnostique, je sais pas quoi. Non, vous inquiétez pas. Pour ceux qui sont ici, vous avez tous la foi parfaite, plénitude reçue de lumière, de Marie. Mais les autres, heureusement qu'on ne se regarde pas trop soi-même. Hein. Mais il faut fuir l'hérésie. Dans la foi eucharistique, quand on offre le corps, on reçoit le Verbe de Dieu. Quand on offre le sang, on reçoit la séparation et la distance immense et la soif de la création tout entière, de la résurrection universelle. On offre le sang. On offre notre vocation dans le temps et dans l'éternité à l'émanation de l'amour à partir de l'unité du Père et du Fils dont nous sommes le tabernacle. Quand nous offrons l'union hypostatique déchirée de Jésus, nous offrons toutes les distances entières, absolues, qui séparent Dieu de nous et qui fait l'unité substantielle, lumineuse et éternelle, où il n'y a plus aucune distance entre Dieu et quoi que ce soit, et qui que ce soit, où que ce soit. Et la divinité. C'est l'unité des trois dans l'un. À chaque Eucharistie, le Seigneur demande à la foi de Marie qui est en nous, d'opérer de manière parfaite cette offrande du dedans de nous, à travers le dedans de l'humanité tout entière que nous représentons, celle du ciel comme celle de la terre. Notre foi est une foi de lumière et d'amour pour le Père. Alors Marie, une fois cette offrande, elle sait très bien qu'elle fait l'unité entre toutes les offrandes qui doivent s'opérer à partir d'elle. Elle vit pleinement de la plénitude de la résurrection de l'âme du Christ et de son époux, et ça lui appartient parce que Joseph lui appartient. Et elle va faire produire dans le Verbe de Dieu et dans le sang la puissance de l'amour du Père et du Saint-Esprit pour que ce sacrifice, pour que cette distance disparaisse jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la réalisant par le désir qu'elle en a de voir cette résurrection opérée jusqu'à la matière universelle de l'univers tout entier. Elle sait que c'est ce que Dieu lui demande à travers cette révélation de la force de Dieu dans le sacrifice du Fils. La force de Dieu qu'appelle le nouveau Gabriel. Force de Dieu. Et elle dit oui. Et alors elle rend présent sacrifice jusqu'à la fin du monde, de manière réelle dans toutes les âmes de la foi, jusqu'à toucher le fond de l'accomplissement des temps et obtenir ainsi, dans la supervenue du Saint-Esprit, l'obondration du Père au-delà de ce mystère de la résurrection universelle. De permettre au Verbe de Dieu de toucher à travers elle la résurrection corporelle de l'humanité tout entière, mais comme elle est au pied de la croix, ça lui revient en elle, dans la production de la résurrection corporelle de Jésus. C'est ainsi que la foi de Marie, l'Eucharistie, engendrait le respectus du Verbe dans l'incarnation de sa propre résurrection et de celle de son Père. C'est la même foi, c'est la même espérance, c'est la même fécondité qui sera demandée à celui qui est tout proche de Marie, tout intime d'elle, tout englouti en elle, elle tout engloutie en lui, à travers le sacerdoce victimal éternel d'amour. C'est Yohanan ben Zebeda, et ça va durer 20 ans, tout le temps qu'il faut, la transformation spirituelle de la mise en place de l'infinité, de la charité des deux en un. Dans l'un de la résurrection de Jésus, de Joseph, du Père et du Fils. Et c'est ce qui explique l'avènement de la dormition, qui est pour nous le modèle de l'action de grâce après la communion. Vous voyez, je veux dire, vous comprenez ce que je veux dire, ce que je veux dire avec vous ici, que nous voulons dire ensemble, c'est que c'est pas des choses admirables sur Marie, l'Eucharistie, vous voyez, c'est comment est-ce qu'on fait pour participer au sacrifice de la messe. Vous avez entendu peut-être moi dans. Comme moi dans votre vie. Ouais, j'ai eu ma messe. Hein. J'ai eu ma messe. Du samedi, celle qui compte pour le dimanche. C'est annoncé en chair. Samedi prochain, la messe de samedi est à 18h. La messe comptant pour le dimanche. Ça compte pour les éborages. Pourquoi est-ce qu'on mettrait le sabot sur les roues de la voiture, le frein à main, la marche arrière, le goudron sur la vitrine et sur le pare-brise? Ah, en jetant la clé de contact dans les égouts. Attends, c'est une bagnole, c'est pour avancer. Il faut fuir l'hérésie, plus que Lucifer. La doctrine de l'Église, c'est celle de l'Immaculée Conception. Et si elle est divine, qu'elle vient du ciel, d'être affinité avec la lumière, née de la lumière, c'est à cause de la foi. Il faut faire l'acte de foi, vous voyez. C'est pas l'acte de foi en disant, ouais, bon, d'accord, je crois que c'est Jésus qui est là, je crois que c'est Jésus crucifié qui est là, je crois. Très bien, faites ça au début, peut-être si vous voulez, je crois, ça veut dire j'adhère à travers l'hostie, et je pénètre dans la transsubstantiation, je m'engloutis dans la transsubstantiation, et là, il y a Jésus qui est en train de s'arracher. Oui, ah, ça adhère, là, ça devient mieux. Et c'est tout mon espace intérieur. Il n'y a plus que ça qui se produit là-bas, Jésus, dans Saint Ave Joseph, Marie, Jésus. Tous les temps, tous les lieux. Oui. Il faut faire des actes de foi. Vous voyez, la foi, ce n'est pas un état. En disant, moi, je suis croyant. Alors, du coup, je suis un croyant et je rentre dans le canapé de ma croyance, comme la limace. Vous connaissez l'histoire de la limace. La limace, oui. Elle prend la forme de la cuillère. En mettant une cuillère, ça prend la forme de la cuillère, la limace. C'est joli, ça. Ah, moi, j'ai la foi. J'ai la foi, mais ça ne veut rien dire. Chaque acte de foi est tellement fort, tellement violent, qu'il doit produire une mission invisible des personnes divines dans notre âme et dans la substance de l'humanité tout entière à travers nous. Et quand il y a l'Eucharistie, je fais un acte de foi pour pénétrer qu'il y ait cette mission invisible du Saint-Esprit. Avec la Marie nous a été donnée, cet acte de foi, avec sa puissance, sa fécondité, nous a été donné. Ranan, Parlo, Imak. C'est des actes. On fait des actes. Et quand j'ai fait 153 000 fois un acte de foi de cette violence d'amour et de lumière, alors à ce moment-là, j'ai l'habitus de foi. C'est un habitus pacifique qui permet à l'acte suivant de s'opérer délicieusement, pacifiquement, et au-delà de tous les actes de foi que j'ai fait jusqu'à maintenant, dans l'au-delà de lui-même. C'est, j'ai l'habitude de me dépasser dans l'acte de foi suivant. On appelle ça d'avoir l'habitus de la foi. Un pli surnaturel de foi. Celui qui correspond à la sixième demeure. Mais enfin, l'Église a besoin d'âme, d'amour. La voie illuminative, c'est la voie de la lumière. Moi, je suis content, j'ai fait oraison, j'ai senti l'assoupissement de mes puissances. Ça y est, je sais ce que c'est que l'oraison de quiétude, je suis content. Ça fait 7 ans que je suis avec ça, je suis très heureux. Oh, bon arbre. Et ça, c'est la voie de la lumière, la voie illuminative. Sursum corda, un peu plus haut, s'il vous plaît. Un peu plus haut, sur son, là-dessus. Les cœurs plus haut, s'il vous plaît. Un peu d'amour. Il faut aller à la sixième. Il faut aller à l'union d'amour, à l'union parfaite d'amour, victimale d'amour. éternel du cœur. Et vous passez le voile de la lumière pour entrer dans une transformation d'amour, dans le mariage spirituel accompli. Et donc il faut faire aussi des actes véhément d'amour. Pour éprouver dans la raison, le soir que vous entendez, pour que ça puisse opérer dans l'expérience naturelle de votre vie d'amour, le soir dans la raison, ah si je pouvais expérimenter au moins au début de la raison, et puis du coup après sous ça, ces actes véhément d'amour de Marie. Oh, quelque chose, oui, quelque chose, cet acte véhément d'amour de Marie, au moment où elle s'est engloutie comme les chutes du Niagara dans le cœur de Saint-Jean, au moment où elle a dit oui immédiatement, même avant la mort de Jésus. Pour engloutir et disparaître dans sa servance victimale, sacramentelle de l'Église. Alors Jésus, dans cette adhésion, dans cet acte d'amour, a pu produire un nouvel acte de foi totalement différent, qui a obtenu le sacrifice d'amour de Jésus dans l'acte de son union hypostatique déchirée en l'instant. C'est absolument prodigieux l'amour. Et il faut expérimenter surnaturellement la charité surnaturelle d'amour. Donc l'oraison de quiétude, c'est bien. Mais Dieu demande l'oraison d'amour. Il faut de la sponsalité d'amour. Nous arrache jusqu'à la lumière. Rentrer dans l'amour, dans la nuit obscure, substantielle, aquasée de l'âme. Vous voyez, cette disponibilité que nous devons avoir dans le sacrifice de la messe, cette manière de pénétrer, de se laisser pénétrer, c'est à travers des actes de pénétration, de disponibilité, d'assimilation, de transformation, de fulguration d'amour. En allant toujours plus loin. Dans la ferveur divine, de l'unité totale, de la lumière vivante de la Jérusalem céleste, la Jérusalem spirituelle en une seule lumière d'amour. Faites-le. Faites tout ce qu'il vous dira. Faites-le. Faites ceci en mémoire de moi dans la présence réelle de mon union hypostatique déchirée. Parce que la mémoria de Yitzhakaron de Yeshua, c'est son union hypostatique déchirée. Et laissez-vous emporter par la transverbération. Et la transformation sous du Saint-Esprit de l'acte de foi de l'Église accompli pour qu'il plus de la mort et que s'accomplisse le royaume. C'est pourquoi nous avons été créés par Dieu dans cette génération. C'est pour accomplir ce mystère de cette manière. Beaucoup de saints, beaucoup de prophètes auraient désiré vivre dans la génération dans laquelle nous sommes. Prenez par exemple Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, vous connaissez. Je m'offre aux victimes de miséricorde, d'amour. Mais j'aimerais tellement être là, au jour de la parousie, pour le combat final du jour du Seigneur contre toute la puissance de l'Antéchrist. C'est là que dans l'amour, elle dit, je me donne, mais en ce retour d'amour où Dieu va se donner à moi, dans toute puissance de son don, de manière folle et fulgurante, qu'il me donne de pouvoir être sur la terre pour combattre avec cette génération qui sera là à ce moment-là. Être désiré fait partie de notre génération. Elle n'a pas été choisie pour ça. Elle le fera du ciel. Mais son corps est encore à Lisieux. Ah bon, il n'est pas à Lisieux son corps. Tandis que nous, on est là. Le corps, le sang, l'âme, l'union hypostatique et la divinité du Christ sont à nous. Pour l'ouverture du cinquième sceau, combien de prophètes, combien de saints auraient voulu être à notre place? Quelquefois, il faut prendre conscience quand même du don de Dieu. Et arrêter avec le reste. Fini la grenouille, le crapaud, la limace et le corbeau. Sans parler du reste. Alors Jésus imposa une nouvelle fois les mains sur les yeux. Et celui-ci, se trouvant guéri, distinguait tout avec netteté. Alors Jésus lui dit, surtout, ne rentre pas